Chers auditeurs, ce que vous venez d'entendre est la version russe de l'Internationale, une chanson composée par Eugène Potier en 1871 et mise en musique par Eugène Degaiter en 1888 à Lille. Cette chanson a été l'hymne de l'URSS de 1922 à 1944. Or, nous sommes le 25 octobre. Le 25 octobre 1917, les bolcheviks portaient Lénine au pouvoir. En fait, je devrais dire le 7 novembre dans notre calendrier, car c'est le 25 octobre, mais dans le calendrier orthodoxe, pas dans le calendrier géorgien. Il y a de ça peut-être 2 ans, lors d'un dîner, un Russe me dit « Ce sont les Juifs qui ont provoqué la révolution russe pour affaiblir la Russie. » Alors comment en est-on arrivé là, à cette idée que les révolutions seraient provoquées par les Juifs? Je vous propose de faire un retour en arrière sur la situation des Juifs dans l'Empire russe. Il existe des communautés juives en Russie depuis fort longtemps. Avant même que la Russie n'existe, il y avait des Juifs en Crimée et sur le littoral oriental de la mer Noire. Des Juifs romagnotes, c'est-à-dire de culture grecque et qui suivaient le Talmud de Jérusalem plutôt que celui de Babylone, mais aussi des Juifs turcophones. On sait par exemple que le royaume des Khazars, qui s'étendait au nord de la mer Caspienne, s'est converti au judaïsme. Mais dans la deuxième moitié du XVe siècle, lorsque le tsar Ivan III est au pouvoir, il unifie autour de lui toutes les principautés russes, autour donc de la principauté de Moscovie, et il veut en faire un royaume centralisé où seule la religion orthodoxe serait tolérée. Ainsi, les Juifs ne peuvent plus résider en Russie, ils n'y sont que tolérés comme voyageurs ou marchands ambulants. Simplement, au XVIIIe siècle, cet empire russe s'étend. Il s'étend à l'ouest, au sud, au détriment de la Suède, des Polonais, des Lituaniens, des Moldaves et des Ottomans. Et ainsi, plus d'un million de Juifs ashkénazes se retrouvent dans cet empire russe. C'est ce qui pousse la tsarine Catherine II à créer en 1791 la zone de résidence. Il s'agit d'une zone où les Juifs seront autorisés à résider dans les, justement, ces territoires conquis par l'Empire russe récemment. Ils ne sont qu'un million à la fin du XVIIIe siècle, mais vont prospérer et atteindre plus de 5 millions en 1897. Ils vivent dans des shtetls, des petits villages, avec des constructions en bois, des chemins de boue, comme on peut les voir par exemple dans les tableaux de Chagall, et ils parlent le yiddish, un vieil allemand matiné d'hébreu. Le chassidisme se développe dans toutes ces régions-là, le chassidisme qui est né autour du Baal Shem Tov, mais ce chassidisme doit faire face aussi à l'opposition religieuse des mitnagdim, c'est-à-dire les opposants en hébreu, autour notamment du Gaon de Vilna. Et puis il y a aussi les influences qui viennent de l'Ouest, la lumière juive, qu'on appelle la Haskala, et qui vont aussi toucher notamment les Juifs installés en ville. Dans ce régime autocratique qu'est la Russie des Tsars, où le servage existe encore, alors qu'il a été aboli depuis le Moyen-Âge en Europe, dans cette Russie arriérée où 80% de la population est encore paysanne, au début du XXe siècle, les Russes ne sont pas complètement majoritaires. Ils sont à peine majoritaires, puisque en s'étendant, eh bien, cet empire russe a intégré des minorités ethniques. Alors les Juifs, bien sûr, mais aussi les Polonais, les Ukrainiens, les peuples du Caucase, les Finlandais, les Biélorusses, etc. En 1855, le tsar Alexandre II arrive sur le trône de Russie. Et c'est un tsar réformateur. Il veut sortir la Russie de cette arriération et c'est la raison pour laquelle en 1860, il abolit le servage. Il permet aussi à certains juifs de s'installer en dehors de la zone de résidence. Et l'on croit même qu'il pourrait permettre à terme une émancipation des juifs comme ça a été le cas en France lors de la Révolution française. Mais le 1er mai 1881, le tsar Alexandre II est assassiné à Saint-Pétersbourg. Là où se dresse aujourd'hui la cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé, par un groupe de révolutionnaires, Narodnaya Volia, la volonté du peuple, un groupe de nihilistes, c'est-à-dire d'anarchistes qui prônent la violence pour entraîner avec eux la population. Tout de suite, les Juifs se sont rendus responsables de ces agitations révolutionnaires et de l'assassinat du tsar. Pourtant, les deux révolutionnaires qui ont assassiné Alexandre III, Sofia Petrovskaya et Andrei Gelyabov, ne sont pas juifs. Et Serge Netchaïev, qui a fondé Narodnaya Volia, n'est pas juif non plus. Et il existe même, parmi les révolutionnaires, des antisémites. Prenez par exemple Mikhail Bakounine, grande figure de l'anarchisme en Russie et même en France. Voici ce qu'il écrit en décembre 1871. Les Juifs constituent aujourd'hui en Allemagne une véritable puissance. Juif lui-même, Marx a autour de lui, tant à Londres qu'en France et dans beaucoup d'autres pays, mais surtout en Allemagne, une foule de petits Juifs, plus ou moins intelligents et instruits, vivant principalement de son intelligence et revendant en détail ses idées. Marx, pour la petite histoire, n'est pas juif. Il est des descendances juives, mais a été lui-même baptisé. Alors, en réaction, le tsar qui succède à Alexandre II, Alexandre III, lui refuse toutes les réformes. Et non seulement il se raidit, mais il charge en 1882 le général Ignatieff d'établir des lois contre les juifs. Ce sont les fameuses lois de mai 1882. Désormais, les juifs non seulement ne pourront résider hors de la zone de résidence, mais ils ne pourront non plus ni y acheter de maison, ni de terre, et ils ne pourront pas non plus faire de commerce durant les fêtes chrétiennes. Et puis plus grave, une première vague de pogroms agite l'Empire russe. Elle commence en 1882 et se poursuit jusqu'en 1884. Plus de 200 localités juives sont attaquées, souvent à l'instigation de popes orthodoxes. Et je vous propose de vous lire, ce qu'Albert Londres, un journaliste français, a écrit sur les pogroms. Maintenant un spectre nous barre la route. Il n'est pas blanc, il est rouge. Il rôde sur la Transylvanie, sur la Bessarabie, sur l'Ukraine. On ne comprendrait pas sans lui le regard inquiet des Juifs de cette Europe, leur attitude peureuse, leur dos courbé, leur amour des impasses, ni pourquoi dans les rues ils longent les murs et par le bas, ni leur craintive et vigilante curiosité. Au moindre événement, ils ont les réactions d'un criminel qui entend frapper à sa porte. Tous en effet dans ces pays-là se sentent lourds d'un crime, celui d'être juif. Le spectre s'appelle pogrom. Il n'est pas terriblement vieux. Depuis le massacre de Chmelnytsky, les Juifs avaient été battus plutôt qu'assassinés. Le pogrom moderne est né en Russie, sur le trône d'Alexandre III, au cours de l'année 1881. On ne sut tout d'abord comment il était fait. Son nom n'avait aucune notoriété. Il se promena pour ses débuts avec la tranquillité d'un inconnu. La terre n'était pas aussi petite qu'aujourd'hui. On n'entendait pas au coin de son feu la voix du monde sortir d'une boîte d'acajou. Les morts depuis longtemps étaient enterrés quand l'odeur du pogrom arrivait aux frontières. Un pogrom est une espèce de rage. Elle n'atteint pas les animaux, mais seulement les hommes, et en particulier les militaires et les étudiants. Qui la leur communique? On croit jusqu'à présent que ce sont les gouvernements. Les gouvernements qui regardent vers l'ouest ne sont pas atteints de ce virus. Ceux qui regardent vers l'est l'ont dans le sang. C'est dans Le Juif errant est arrivé qu'Albert Londres a écrit dans les années 30. Alors, les Juifs vont réagir. En 1881, Léon Pinsker, un médecin d'Odessa, crée Chibat Sion, les amants de Sion, un mouvement qui vise à permettre aux Juifs de quitter la terre russe gorgée de sang pour fonder un nouvel État à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. En 1882, est créé, toujours dans l'Empire russe, le mouvement Bilou. Bilou, c'est un acronyme issu du livre d'Isaïe, Bet Yaakov Lechuvenecha, Maison de Jacob, Allons et Marchons, là aussi un mouvement sioniste. Et c'est le début de la première alia qui va, par exemple, conduire à la création de la ville de Guédéra, à côté de Rehovot Lezion. En 1897, Théodore Herzl organise à Bâle un congrès mondial du sionisme, auquel participent de nombreux délégués de l'Empire russe. Et puis, à côté de ces juifs qui se tournent vers le sionisme, d'autres vont se tourner plutôt vers des mouvements révolutionnaires, socialistes. C'est en 1897 aussi qu'est créé le Bund, une organisation qui se veut à la fois révolutionnaire et socialiste, mais qui considère que les Juifs ont une problématique particulière dans l'Empire russe et qu'il faut y répondre. Je vous propose d'écouter l'hymne écrit en yiddish par Shalom Hansky de ce Bund en 1902 et qui s'intitule « Dichvou ».
Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle von seinen zu seit und zu spreit, zusammen, zusammen, die von sie ist greit, sie flattert von Zaren, von Blut ist sie reit, a Schwue, a Schwue, auf Leben und Teut. Brüder und Schwester, von Arbeit und Neut, alle von seinen zu seit und zu spreit, zusammen.
Frères et sœurs tourmentés, révoltés, de par le monde dispersés, rassemblez-vous, la bannière attend, elle flotte furieuse, maculée de sang, à la vie, à la mort, prêtez serment. Voici quelles sont les paroles de Dichvou en français. Lorsque un nouveau tsar arrive sur le trône, Nicolas II, qui sera le dernier des tsars de l'Empire russe, la situation ne s'arrange pas pour les Juifs. Nicolas II, comme son père, n'est pas favorable à des réformes. En novembre 1894, il expulse les Juifs de Saint-Pétersbourg, de Moscou et de Kharkov, où certains d'entre eux avaient obtenu l'autorisation de s'installer. Et puis il fixe des quotas de Juifs dans l'université, pas plus de 5% de Juifs dans les universités. Plus grave, en 1903, éclate une deuxième vague de pogroms qui durera jusqu'en 1906. Elle débute à Kishinev, en Bessarabie, c'est-à-dire à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine aujourd'hui. Le 6 et 7 avril 1903, 40 juifs sont assassinés. Elle touchera d'autres villes, Semla, Rovno, et surtout Odessa, grande ville du sud de l'Ukraine, où plus de 5000 juifs sont mis à mort. Les juifs essayent de se défendre, des milices d'autodéfense sont créées, et puis certains vont fuir. Ils fuient vers l'Angleterre, vers les États-Unis, vers la France. 3 millions de Juifs quittent ainsi l'Empire russe. Mais parfois, ces pays refusent de les accueillir. C'est le cas notamment de l'Angleterre qui, en 1905, promulgue l'Alien Act, qui limite l'arrivée des migrants venus de l'Est. Les Juifs se mobilisent aussi en faisant des pétitions, des articles, des poèmes, comme celui de Bialik, qui raconte ceci. C'est un poème long, je vous en lis que le début, mais vous pouvez trouver l'intégrale sur Akadem. Voici le début. C'est au sujet d'un pogrom de Kishinev. Dans le fer, dans l'acier, glacé, dur et muet, forge un cœur et qu'il soit le tien homme et viens. Viens dans la ville du massacre. Il te faut voir, avec tes yeux, éprouver de tes propres mains, sur les grillages, les piquets, les portes et les murs, sur le pavé des rues, sur la pierre et le bois, l'empreinte brune et desséchée du sang, de la cervelle, empreinte de tes frères, de leurs têtes, de leurs gorges. Te faut égarer au milieu des décombres, parmi les murs béants, leurs portes convulsées, parmi les poils défoncés, les moitiés de chambre, les pierres noires dénudées, les briques à demi brûlées, où la hache, le feu, le fer sauvagement, ont dansé hier en cadence à leurs noces de sang. Et rampe parmi les greniers, parmi les toitures crevées. Regarde bien, regarde à travers chaque brèche d'ombre, car ce sont là des plaies vives, ouvertes, sombres, et qui n'attendent plus du monde guérison. C'est dans ce contexte qu'éclate en 1905 une première tentative de révolution. C'est aussi dans le contexte de la guerre russo-japonaise, car les Japonais qui n'acceptent pas l'occupation de la Mandchourie par la Russie déclarent la guerre à la Russie. Tout le monde pense que la Russie va l'emporter facilement contre cette puissance asiatique. Mais voilà, la flotte russe est bloquée, car stationnée en Baltique, elle ne peut remontée par l'océan glacial arctique. Elle est donc obligée de contourner toute l'Afrique pour pouvoir prêter secours à Port Arthur, le grand port mandchou assiégé par les Nippons. Le temps que la flotte russe arrive, Port Arthur capitule. Et aussitôt, de violentes manifestations éclatent devant la résidence du tsar. Elles sont menées par le Pope Gapon. Pope Gapon, qui était en fait un agent secret de l'Okhrana, la police du tsar, mais qui a fini par prendre son rôle de leader révolutionnaire au sérieux et par se retourner contre le tsar. Cette manifestation, pacifique au départ, est suivie de fusillades ordonnées par la police du tsar. Et ces fusillades, créent l'indignation au sein de la population. Des régiments se révoltent et on assiste à la création des premiers soviets, c'est-à-dire des premiers conseils élus qui visent à exercer le pouvoir. C'est notamment le cas du soviet de Petrograd, présidé par un certain David Bronstein, qui n'a que 26 ans et qui a pour surnom Léon Trotsky. Face à cette tentative de révolution de 1905 qui finalement échoue, une forte répression s'abat et le tsar accepte néanmoins le principe d'une douma, c'est-à-dire d'une assemblée nationale mais à simple pouvoir consultatif. C'est aussi lors de cette révolution de 1905 que se crée le mouvement des Cent Noirs, un mouvement pré-fasciste pourrait-on dire, responsable notamment de pogroms, par exemple à Bialystok en Biélorussie, en juin 1906, où 80 juifs sont assassinés. C'est aussi à ce moment-là qu'est publié un livre qui fera florès pour les antisémites. Il s'agit du Protocole des Sages de Sion. Bien que la première publication ait été faite en septembre 1903 dans le journal Znamia, une revue littéraire russe, l'ensemble du livre est publié, édité, par Serge Nilus en 1905. Le surtitre est « Programme juif de conquête du monde ». Vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Quel est le contenu de ce livre qui est en fait un faux fabriqué par l'Okhrana, c'est-à-dire la police russe? Il s'agit de nous dire qu'en 1897, le Congrès sioniste visait en fait à la domination du monde et que chacun des délégués s'entendait à affaiblir les différentes puissances pour mieux dominer ce monde, et notamment la Russie, rempart orthodoxe au judaïsme. Il s'agissait en fait d'un plagiat, d'un pamphlet satirique paru en 1864 en France sous la plume de Maurice Joly et qui s'intitulait « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». En effet, depuis la Révolution française, est né ce que l'historien israélien Zev Sternel appelle les anti-lumières, c'est-à-dire un mouvement d'idées qui rejette la philosophie des Lumières et les droits de l'homme. Et l'on trouve parmi les anti-lumières de farouches antisémites qui pensent que la Révolution française, les droits de l'homme, ne sont qu'un complot des Juifs pour affaiblir les différents États. Et c'est donc ce type de rhétorique que l'on trouve dans le Protocole des Sages de Sion. Ce Protocole des Sages de Sion connaîtra une grande postérité. Car à partir des années 1920, les Russes blancs, c'est-à-dire les Russes partisans du tsarisme, le diffuseront en Europe. Et il se vendra à des millions d'exemplaires. Hitler le cite dans Mein Kampf. Henry Ford, célèbre industriel américain fabricant d'automobiles, dans son journal fondé en 1918, Dearborn Independent, journal antisémite, dont il tirera un ouvrage lui-même antisémite, The International Jew, écrit que le protocole des sages de Sion ne peut être un faux tant il respire la vérité. Et puis à partir de 1948, ce protocole se diffusera aussi dans le monde arabe. Ainsi, en 2003, il rentre à la bibliothèque d'Alexandrie, où il est posé à côté d'un exemplaire de la Torah. Et puis il est popularisé par certaines séries télévisées, comme Un cavalier sans monture, une série télévisée diffusée en Égypte. Il n'y a pas d'autres pogroms jusqu'en 1917, mais en 1911, une accusation sortie du Moyen-Âge contre Menachem Belis, un juif de Kiev, directeur d'une fabrique de briques. En effet, cette accusation, c'est celle de meurtre rituel qui était né au XIIe siècle en Angleterre et qui s'était répandu en Europe occidentale. Il s'agit de l'accusation selon laquelle les Juifs enlèveraient des enfants chrétiens pour prendre leur sang et en fabriquer le pain azim à Pâques. Pourquoi cette accusation? Le 12 mars 1911, un enfant de 13 ans, Andrei Ruchinski, disparaît sur le chemin de l'école. 8 jours plus tard, son corps mutilé est découvert dans une grotte près de la fabrique de briques. Le 21 juillet, un allumeur de réverbère affirme que ce garçon a été enlevé par un juif. L'on soupçonne donc le directeur de cette fabrique de briques, juif Menachem Belis. Il est arrêté et passe 2 ans en prison. Puis, lors de son procès du 25 septembre au 28 octobre 1913, eh bien, l'on va faire intervenir de soi-disant experts en judaïsme et en fait véritables antisémites. Notamment le prêtre catholique Justinas Pranaitis, qui avait publié en 1892 le Talmud démasqué. Celui-ci se présente comme un expert du Talmud et prétend eh bien, que le Talmud incite au meurtre et à l'extermination des chrétiens. Et un long chapitre est dédié au meurtre rituel. Mais voilà, lors du procès, cela ne se passe pas comme prévu. Car, au moment du contre-interrogatoire, lorsqu'on demande à cet soi-disant expert des questions simples sur le Talmud, par exemple, que signifie le mot Ulin, le nom des traités du Talmud, il répond « je ne sais pas ». Que signifie le mot Érubin, un autre nom d'un des traités du Talmud, même réponse « je ne sais pas ». Que signifie le mot Yebamot, encore un traité du Talmud, je ne sais pas. Et puis, plus savoureux, quand vivait Baba Batra, c'est le nom d'un des traités du Talmud, et qu'a-t-elle fait? Pranaitis répond toujours, je ne sais pas. Vous voyez que pour un expert, eh bien, cela augure bien mal. Et puis, l'allumeur de réverbère admet qu'il a inventé cette histoire sur ordre de l'Okhrana, la police russe. Par conséquent, Menachem Belis est acquitté. Il partira ensuite en Palestine, puis à New York, où il s'éteindra en 1934. Il est enterré dans le même cimetière que Léo Frank, un autre juif américain cette fois-ci, lui aussi accusé du meurtre d'une petite enfant chrétienne, Mary Fagan, en 1915, acquitté, mais bientôt rattrapé par la foule et lynché. En 1917, lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir, ils abolissent toutes les discriminations que subissaient les juifs. Mais une guerre civile s'ensuit. Guerre civile qui s'étend de 1918 à 1920 et parfois même jusqu'en 1922. Dans cette guerre civile, de très nombreux juifs seront massacrés lors d'une troisième vague de pogroms. Pogroms menés par les Russes blancs essentiellement, les Russes favorables au tsar, notamment les armées de Denikine, mais aussi des armées anarchistes comme celle de Makhno, des armées des socialistes révolutionnaires révoltés contre les bolcheviks comme celle d'Antonov, et même par l'armée rouge. Il est cependant notable que les officiers de l'armée rouge ayant permis des pogroms ont été réprimés. Selon Nicolas Wirth, 150 000 juifs trouveront la mort dans ces pogroms. Selon un autre historien, Oleg Boutnitsky, c'est 50 à 200 000 juifs qui mourront, 200 000 autres mutilés, sans compter les femmes violées. Après la période de guerre civile, il n'y aura pas d'autres pogroms, sauf un dernier résiduel à Mogilev en 1928 en Biélorussie, car une rumeur accuse les juifs de pouvoir échapper au service militaire dans l'armée rouge. Ce n'est qu'en 1941, au début de l'opération Barbarossa, que les populations juives du RSS seront de nouveau ensanglantées. Alors je souhaiterais terminer sur une chanson dont les paroles ont été composées en 1878 dans l'Empire russe par Naftali Herz Imber, est mise en musique en 1888 en Bessarabie, toujours donc dans l'Empire russe, par Samuel Cohen, la même année que l'International. Donc, il s'agit de l'Atikva, l'espoir. C'est l'hymne de l'État d'Israël aujourd'hui. Yeah, who?